Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je partage avec vous le grand plaisir de recevoir la célèbre journaliste française Anne Niva.
Bonjour,
Anne.
Bonjour, Viviane.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de passage à Genève, Anne, pour la promotion de votre dernier livre. Vous en avez écrit beaucoup, je crois 14, si j'ai bien...
À peu près, j'ai à peu pas près. Compté, oui.
Ce livre s'appelle « La haine ou le déni », on va en parler
non,
tout
non,
à l'heure.
Non, non, « La haine et le déni ».
Et le déni.
Ce sont les deux à la fois, Viviane.
Avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre.
C'est ça.
Ça, c'est le sous-titre, d'ailleurs. On en parle tout à l'heure, mais pour le moment, Anne, pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas assez...
Bien sûr.
Eh bien, je vais vous poser la question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étiez-vous ?
Une petite fille charmante avec Donat. Voilà.
Vous êtes née où ?
Je suis née à Poissy, mais j'ai grandi juste là, de l'autre côté du Salève. Donc, je suis pratiquement chez moi en étant ici, chez vous, à Radio Cité.
D'accord. Et vos parents, que faisaient-ils ? Je crois que votre père était un grand intellectuel, connu.
Mon père est un grand intellectuel, il faut parler au présent, et ma mère également. Donc j'ai grandi dans une maison avec mes deux parents, professeurs de russe, de littérature russe. Ma mère agrégée de russe, de langue russe, qui enseignait toute sa vie au collège et au lycée, donc à Annemasse, juste de l'autre côté de la frontière. Et j'ai eu ma mère comme prof, puisque j'ai fait russe en seconde langue à partir de la quatrième jusqu'à la terminale. On était 8 en cours, les 8 mêmes, depuis la quatrième jusqu'à la terminale, vous imaginez. Et puis mon père, lui, professeur à l'Université des Lettres de Genève. Et donc quand j'ai eu mon bac, la question s'est posée... Où je poursuivrai mes études ? Irai-je à Lyon ou à Paris ? Ou continuerai-je à Genève ? Mais je savais que si je continuais à Genève, j'aurais mon père comme prof, sans aucun doute. Alors comme j'avais déjà eu ma mère, j'ai décidé d'aller à Paris.
Ça, on peut comprendre.
Voilà.
Même si on aime sa famille, on n'a pas toujours envie de les avoir pour professeurs.
Non, je n'ai aucun regret.
Vous avez des frères et sœurs ?
Un frère, Guillaume, qui habite à Genève.
Et qui habite à Genève. Bon, alors, Anne, c'était une question pour situer... À quel moment vous avez eu envie de faire le métier que vous pratiquez aujourd'hui ?
Oh, j'ai du mal à le dater. On me pose souvent cette question. Je ne sais pas. Je me souviens d'un déjeuner où... Justement, je me demande si c'était pas sur les rives du lac. Un déjeuner familial, dans un restaurant, où mon père nous avait demandé à Guillaume et moi ce qu'on voulait faire plus tard. Je devais avoir, je pense, 13-14 ans. Donc Guillaume, 2 ans et demi de moins que moi. Guillaume ne savait pas très, très bien.
Guillaume, c'est votre frère.
Oui, mon frère. Et mon père a dit, Anne, mais toi, tu pourrais peut-être devenir journaliste. Et je me rappelle que je lui ai dit, mais journaliste, c'est quoi exactement ? Ça fait quoi un journaliste ? Et il m'a dit, un journaliste, ça raconte des histoires, mais des histoires vraies. Alors...
C'est pas toujours
exactement...
vrai. Hein. Ça, c'est le joli côté du journalisme.
Non, pardon, Viviane. C'est tout à fait vrai. En tout cas, dans mon cas.
Dans votre
et
cas.
Et c'est mon cas qui m'intéresse.
Oui.
La façon dont les autres journalistes que moi pratiquent leur métier n'a en aucun impact sur ma façon de le pratiquer.
Absolument. Donc, vous avez envie de faire ce métier pour
Sans doute. Mais moi, je suis quelqu'un de très ouvert, très international. Je m'intéresse à la vie des autres, à l'être humain en général. Et donc, toute ma vie, tous mes livres illustrent cette passion.
Alors, attendez, 13-14 ans, vous décidez d'être journaliste. Donc, vous faites les études qu'il faut pour. Qu'est-ce que vous faites comme étude après ?
Alors, j'ai après mon bac que j'ai passé à Annemasse. Je suis donc allée à Paris où j'ai fait des études supérieures. J'ai donc bac plus 8. Donc, je suis docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, spécialisé justement dans les études sur la Russie est-européenne. J'ai eu comme professeur Hélène Carrère-Dancos.
Puis Hélène ensuite, Carrère-Dancos j'ai fait. Hélène Carrère-Dancos qui a été, je le rappelle pour nos auditeurs, secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
Ben, bien sûr, bien sûr.
Vraiment une belle personne.
Une personne extraordinaire.
On aimait beaucoup. Oui.
On y reviendra peut-être.
Je l'ai eu à mon micro.
Oui, je sais, vous m'avez dit. Charmante Hélène, et elle me manque beaucoup. Après ce diplôme de Sciences Po, j'ai été à Harvard, aux États-Unis, où j'ai eu un post-doc également spécialisé sur la Russie.
Qu'est-ce que c'est qu'un post-doc ?
Ce sont des études après le doctorat.
D'accord.
Voilà. J'avais reçu une bourse Fulbright, une bourse de l'État américain pour financer ces études-là. Et ensuite, je me suis installée à Prague.
Pourquoi Prague ?
Ma première, parce que j'avais une opportunité de professionnelle, donc pour travailler à Radio Free Europe, Radio Liberty. C'était extraordinaire. Et puis ensuite, je me suis installée à Moscou, où j'ai passé 10 ans. Voilà, les débuts de ma carrière.
Et je crois que vous parlez beaucoup de langues.
Je parle plusieurs langues, oui, mais c'est pour moi nécessaire à ma compréhension du monde.
Donc le russe, bien sûr.
Oui, oui, le russe. Vous voulez que je les énumère ?
Oui.
Le russe, l'anglais, l'allemand, l'italien, entre autres.
C'est pas mal. C'est pas mal. Et là maintenant, vous avez choisi, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi de nous faire écouter, on va l'écouter bientôt, Ibrahim Malouf, Una Rosa Blanca, il y a une raison ?
Quelle meilleure raison que aimer un titre ? C'est un trompettiste de jazz extraordinaire et je trouve que c'est une mélodie très entraînante qui, moi, me touche beaucoup.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Most famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Anne Niva, journaliste, grand reporter de guerre, et qui vient nous parler tout à l'heure, on va en parler, de son livre « La haine et le déni ». J'ai bien compris,
c'est
Anne,
ça.
C'est « et le déni » aussi, c'est-à-dire avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Mais je voudrais continuer un peu ce portrait que vous avez dessiné un peu trop rapidement à mon goût. Je crois que vous êtes professeur à Neuchâtel, à l'université de Neuchâtel. Racontez-nous ça.
J'enseigne à Neuchâtel depuis plus de 10 ans dans un master de l'Académie du journalisme et des médias. Parce que justement, ce métier de journaliste qui est de plus en plus décrié, moi, je l'aime profondément et je l'aimerai toujours. Personne ne m'empêchera de le pratiquer comme je le pratique. Et ce qui m'intéresse dans l'enseignement, c'est évidemment de partager, de transmettre ma façon d'être reporter, de faire du journalisme de terrain. Donc, j'aime beaucoup cette Académie du journalisme et des médias. J'ai une quinzaine d'étudiants par an. Et la première chose que je leur dis, donc ils choisissent mon cours, c'est un cours en option, donc s'ils l'ont choisi, c'est qu'ils ont envie d'être là, et ils vont pratiquer avec moi le reportage de terrain. Donc je leur montre bien que être reporter, c'est pas uniquement au bout du monde, dans des guerres, le reportage ça peut commencer en bas de chez soi. Et ils me font d'excellents reportages pour le travail de master, mais beaucoup de ces reportages sont publiés ensuite dans la presse écrite suisse, donc c'est formidable.
Et quelles sont la nationalité de vos élèves en général? Ils sont suisses, français ou d'autres?
Ils sont suisses pour les trois quarts. Il y a toujours quelques Français en minorité, mais ils sont suisses. Et c'est amusant parce que il y avait une majorité de filles au début. Là, j'ai l'impression que ça, de plus en plus, on a des garçons, ce que je trouve très bien.
C'est bien aussi. Bah, il faut la parité. Hein.
Absolument.
C'est important. D'accord. Et puis, vous avez... Alors, à quel moment vous avez débarqué sur LCI?
Ah, mais ça, c'est récent, ça. Ça, c'est récent.
Ça,
franchement, c'est pas ça. Ma carrière journalistique, c'est pas LCI.
Non,
ma carrière entièrement, c'est uniquement le reportage. Mon socle, c'est le reportage. Mon ADN, c'est le reportage. Et ça ne changera pas. On peut pas faire une croix sur plus de 30 années de terrain. Je vis, je respire sur le terrain. C'est le terrain qui me donne ma légitimité journalistique. Mon socle, une fois de plus, c'est l'écrit. Donc c'est ce livre que j'ai écrit et tous les autres. Et c'est de par l'écriture, avec des mots très choisis, pour que justement ils soient compréhensibles par tous, que j'ose, si je puis dire, aller sur des plateaux de télévision pour, là, essayer de convaincre et de clarifier à l'oral. Mais ça, c'est très récent, ça n'a rien à voir avec le reste de ma carrière.
D'accord. Alors, quand vous allez sur le terrain de guerre, vous êtes souvent déguisée comme les femmes du pays, c'est bien ça?
Alors moi, je ne me considère pas déguisée. Ça n'est pas pour moi un mot
approprié.
Oui, c'est ça. Je m'adapte, tout simplement.
D'accord.
Et je m'adapte aux us et coutumes locaux. Et comme malheureusement la plupart des pays dans lesquels je vais sont en guerre, eh bien Viviane, dans des pays en guerre, bien sûr, tout est changé. Les relations entre êtres humains sont beaucoup plus intenses. Et il faut faire attention à tout. Et les sociétés deviennent beaucoup plus conservatrices, encore plus dans la guerre. Donc évidemment, il est hors de question, il est impensable que je puisse arriver... Par exemple, sur le terrain en Irak ou en Afghanistan ou en Tchétchénie, ce sont des pays musulmans. Même s'il fait 40 degrés, voire plus l'été, en manche courte, en t-shirt en manche courte, en décolleté, etc., c'est impensable. Donc je suis habillée comme une femme locale, c'est-à-dire avec une abaya noire en Irak, avec un foulard qui cache mes cheveux, bien sûr, en Tchétchénie plutôt façon bandeau, bien sûr en Irak également, en Afghanistan la burqa. Donc... c'est pour moi une question d'adaptation et de respect, justement, des us et coutumes des sociétés que j'essaye d'infiltrer pour les comprendre. N'oublions pas que mon but, c'est d'être une intermédiaire. Je suis une intermédiaire. On pourrait dire que, ah bon, vous n'êtes qu'une intermédiaire, mais une intermédiaire, ça n'est pas facile à être. Je ne suis ni plus, mais ni moins qu'une intermédiaire. Pour pouvoir comprendre l'autre. Parce que j'en ai assez, moi, Viviane, j'en ai absolument assez que l'on regarde le reste du monde avec nos lorgnettes de nous en étant occidentalo-centrés. Pour essayer de saisir la différence avec l'autre, il faut le respecter. Il faut, d'autant plus quand on va chez lui. Donc, moi, je vais chez l'autre dans des conditions particulières qui sont des conditions de guerre. Donc ça, ça ajoute une intensité particulière, un souci particulier. Évidemment, il y a le danger de la guerre, on en reparlera peut-être, mais finalement, ce sur quoi j'écris, plus que sur la guerre, c'est sur l'humain dans la guerre. Et c'est ça qui m'intéresse. Du premier livre, Chienne de guerre, au dernier, qui est La haine et le déni.
Vous avez plusieurs fois eu assez peur, vous vous êtes trouvé dans des circonstances, vous le racontez, dans La haine et le déni, vous vous êtes trouvé dans des circonstances où vous êtes fait coincer à la sortie de restaurants ou des hommes en particulier, à mine patibulaire. Vous avez quand même dû avoir peur à certains moments. Comment est-ce qu'on dompte cette peur ?
Mais on la dompte pas. Mais moi, c'est une question de nature. Je n'ai pas peur en général. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas eu peur. Les hommes à la mine patibulaire, certes, enfin, ceux que ça intéresse liront mon livre. Mais vous voyez, je suis devant vous, tout va bien. En revanche, les bombes qui tombent, qu'elles soient des bombes russes, américaines ou que sais-je, c'est ça qui fait véritablement peur. Ce sont ces engins de mort inventés par des êtres humains pour en tuer d'autres. Quand on est sous les bombes, ce qui a été mon cas dans toutes les guerres que j'ai couvertes, évidemment, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu peur. J'ai eu peur à ne plus pouvoir ravaler ma salive. Et j'ai vu autour de moi mourir des innocents, des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants. Mais c'est ça, la guerre. Donc, je la raconte parce que, pour que tous ceux qui ne l'ont pas vécu, et Dieu merci, parce que vivre une guerre, c'est quand même très éprouvant, mais puisse comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est pas aussi facile que, justement, entendre des commentaires sur un plateau entre personnalités qui ne l'ont jamais vécu. La réalité de la guerre, elle est terrible. La guerre, là, ça pue la mort, c'est abominable, ça change la vie des gens. Ça, il faut le savoir. Et tous mes livres le racontent. Et en même temps, dans la guerre, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et c'était inattendu la plupart du temps. Donc ce sont des personnes qui, tout d'un coup, avec lesquelles je me retrouve dans une situation et qui me donnent tout. Le gîte, le couvert, me font penser à autre chose alors que nous sommes sous les bombes. Et là, ce sont des moments extraordinaires. Et mon but, une fois de plus, c'est de les raconter.
On va écouter maintenant. Qu'est-ce qu'on écoute d'ailleurs ?
Comme vous voulez. Bah, peut-être on pourrait écouter Daft Punk, parce que justement c'est très joyeux, c'est ça qui m'intéresse, c'est très, très vivant, très énergique, et c'est très différent de ce que je viens de raconter. Mais c'est ce paradoxe aussi qui me tient en éveil.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Up all night. up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Vous savez que je partage avec vous le grand plaisir de recevoir aujourd'hui la célèbre journaliste reporter de guerre française Anne Niva, qui est presque suisse. Si on
presque
a...
suisse, absolument.
Presque suisse. Alors Anne, vous venez de nous parler avec votre cœur, vous avez ouvert votre cœur sur ce qu'est la guerre, parce que vous êtes un correspondant de guerre, vous allez sur les terrains de guerre et vous dites que c'est ce qui vous nourrit. C'est ce qui nourrit ensuite et qui vous donne votre légitimité ensuite pour aller parler à des radios, des plateaux de télévision.
Absolument.
Et pour écrire.
Et la force de continuer.
Et la force de continuer. J'imagine, quand on voit des gens à la tête éclatée, vous le racontez à un moment dans votre livre, j'imagine qu'on a, on en revient avec un regard changé quand même.
Bien sûr que avoir vécu ma toute première guerre, quand j'avais 27-28 ans, donc en Tchétchénie, sous des bombes russes, le vivre à cet âge-là a changé ma vision du monde pour toujours. Mais elle a renforcé mon espoir en l'humain. En l'humain, en face à face. Moi, j'aime l'autre. L'autre ne me fait pas peur. L'autre avec un A majuscule. L'autre qui est différent, qui a une autre culture, une autre religion, d'autres opinions aussi. Parce que je me suis retrouvée en face, évidemment, de combattants, par exemple, en Irak ou en Syrie, qui étaient des combattants d'Al-Qaïda ou de Daesh, donc des islamistes. Je me suis retrouvée face à des talibans en Afghanistan. Des hommes qui ont une vision de la femme, et donc évidemment de la femme que je suis occidentale, qui n'a rien à voir avec la mienne. Mais pour autant, je n'ai pas refusé de les interviewer, parce que il manquerait plus que ça. Imaginez-vous, Viviane, que je mets tant d'efforts, d'énergie à aller dans ces pays-là, à vivre dans ces guerres.
À vous intégrer, à vous
voilà,
intégrer.
Exactement, à m'intégrer, à m'adapter. Et donc, face à des personnes qui ne pensent pas comme moi, je devrais reculer. Et donc, pour moi, vous voyez, j'en viens à la définition du journalisme. Pour moi, le journalisme, ça n'est pas s'intéresser uniquement à ceux qui pensent comme vous. Et ça n'est pas donner uniquement la parole à ceux qui pensent comme vous. Ça s'appelle de l'entre-soi.
C'est de l'entre-soi.
Et on n'avance pas. C'est l'inverse. Mais en vous disant ça, j'ai pas l'impression d'avoir inventé quoi que ce soit. C'est pas un scoop. C'est simplement qu'aujourd'hui, malheureusement, et je le déplore, la tendance journalistique mondiale est plutôt à la facilité de l'entre-soi. Bon, tant pis. Moi, je continuerai à faire comme j'ai toujours fait.
C'est-à-dire. Ce qui fait votre singularité.
Oui, mais Dieu merci, je ne suis pas toute seule. Mais nous sommes en minorité. les journalistes qui pratiquent le journalisme comme cela, parce que la facilité aujourd'hui, c'est d'être plutôt dans une tendance militante, activiste, ou à prendre parti pour ce qui peut être le plus politiquement correct, sans chercher à avoir l'autre version des faits. Et pour moi, ça, c'est abandonner le journalisme. Le journalisme tel que je le conçois, mais une fois de plus, chacun a le droit de le pratiquer comme il veut. Mais ensuite, il ne faut pas s'étonner que les baromètres de crédibilité, de légitimité journaliste baissent. C'est-à-dire que le grand public considère, nous, journalistes, comme moins crédibles et moins légitimes qu'on a pu l'être. Il ne faut pas s'étonner, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais moi, ça me peine de voir qu'on en est à ce point-là. Et pourtant, justement, on parlait de la JM à l'instant, je vois bien avec les jeunes journalistes que je contribue à former dans ce lieu merveilleux qu'est la JM, qu'il reste une énergie, une passion, un désir d'être journaliste. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu. Mais ça veut dire que le journalisme, c'est du travail. Être journaliste, ça n'est pas saisir son smartphone et prendre une vidéo et ensuite la poster. Ça n'est pas suffisant. Être journaliste, c'est travailler.
En plus, n'importe qui peut le faire, ça.
Travailler. Faire un effort de contextualisation. Faire un effort pour recouper ses sources. Tout ça ne va pas de soi. Faire un effort pour interviewer tout le monde et non pas uniquement les uns plus que les autres, etc., etc. Ne pas forcément donner son avis. Ou alors le donner, mais dans ces cas-là, c'est une autre forme de journalisme. Moi, celle que je pratique depuis le début, c'est du reportage. Quand on fait du reportage, on ne donne pas son avis. On va sur le terrain et on doit être prêt à tout voir et tout entendre.
En fait, vous faites une photographie, quelque part.
Oui.
C'est un peu ça.
Oui, tout à fait.
Et la photographie, eh bien, elle est neutre.
Elle est ce qu'elle elle illustre un instant T à un endroit particulier.
Voilà.
Mais ensuite, il y a le travail du contexte de la photographie. Qu'est-ce qui est dans ce cadre? Qu'est-ce qui est hors cadre? Pourquoi telle et telle personne était là? Pourquoi d'autres n'étaient pas là? Qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie? Il faut tout travailler, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que le journalisme, c'est un effort. Mais moi, j'aime l'effort.
J'imagine, Anne.
Absolument.
Je vois vos yeux briller quand vous dites ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas la télévision.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
On écoute Paolo Conte.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio. Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. E
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Anne Niva. Anne Niva, que vous connaissez un peu mieux maintenant, la célèbre journaliste, reporter de guerre. Anne, vous nous avez expliqué, vous nous avez fait un sorte de credo de ce que doit être le journalisme.
De ce que j'aime, moi, dans le journalisme, absolument. Et de ce qui fait que je continuerai à le pratiquer. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas.
Je comprendrais bien.
Voilà, si le journalisme, c'est devenir fonctionnaire de l'information ou faire du contenu, ça ne m'intéresse pas.
Qu'est-ce que c'est, ça, je fonctionnaire de l'information?
Ça veut dire travailler de 9h à 17h.
Oui.
Moi, quand je suis journaliste, je m'arrête pas jamais de travailler. Il n'y a que quand je dors que je ne travaille pas.
Donc, vous partez dans ces pays-là.
Oui.
Dans ces pays, sur ces terrains de guerre, en fait.
Oui.
Comment ça se passe? Donc, vous décidez... Parce qu'il y a tellement de terrains de guerre. Vous choisissez vos terrains de guerre comment?
Non, mais je les ai choisis par rapport à ma spécialité académique, universitaire.
D'accord.
Je ne vais pas partir en Colombie Chichiri. Pour parler du cartel de Medellin. Je ne parle pas espagnol, ce n'est pas ma spécialité.
D'accord.
Donc, moi, ma spécialité universitaire, c'est la Russie, le monde post-soviétique. Donc, bien évidemment que la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie, je suis en quelque sorte obligée de la couvrir. Je ne peux pas, je ne pourrais plus me regarder dans une glace si je ne m'intéressais pas à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Ça n'est pas possible. Le 24 février 2022, à l'annonce de cette invasion de l'Ukraine par la Russie, j'ai eu un coup au cœur.
Vous n'y croyez pas avant?
C'est pas que j'y croyais pas,
Personne n'y croyait, en fait.
Oui, aucun observateur ne l'avait vu venir, mais je me rappelle plus vraiment de là où j'en étais dans ma vie exactement à ce moment-là, mais j'étais pas en train de travailler sur ce sujet-là. Et puis tout d'un coup, voilà, une invasion, donc là, ça veut dire que quelque chose commence.
Donc vous êtes parti rapidement.
Et je sais pertinemment qu'une guerre est beaucoup plus facile à débuter qu'à terminer. Mmh. On le voit bien. Je suis partie assez vite, oui. Pas tout de suite, je suis partie pour Le Point, parce que je travaille pour l'hebdomadaire français Le Point, fin mars, début avril. Et puis j'ai commencé ensuite en Ukraine d'abord, parce qu'il est beaucoup plus facile de partir en Ukraine. L'Ukraine est un pays ouvert, est un pays qui ne nécessite pas de visa, alors que la Russie est un pays, au niveau des visas, fermé. Elle l'a toujours été. C'est-à-dire fermé dans le sens où il faut demander un visa, ensuite attendre pour l'obtenir. Ça a toujours été le cas. Évidemment, les conditions pour obtenir un visa de journaliste pour aller en Russie aujourd'hui sont encore plus complexes qu'avant la guerre. Mais ça s'obtient. Donc, j'ai d'abord été en Ukraine. Il y a une grande masse de journalistes qui a été en Ukraine. L'Ukraine a complètement ouvert ses portes. Elle a eu raison. Et puis ensuite, je me suis dit, je dois aller en Russie. Je ne peux pas concevoir couvrir la guerre uniquement d'un seul côté. Je ne l'ai jamais fait. Donc j'ai obtenu ce visa pour la Russie et puis j'y suis allée. Et c'est de ces deux visions-là qu'est née très rapidement l'idée, la certitude qu'il fallait faire un livre. Un livre qui justement emmènerait mes lectrices et mes lecteurs de part et d'autre de la ligne de front. Parce que mon but... Viviane, et je crois qu'on l'a bien entendu depuis tout à l'heure, c'est de faire partager le concret, le réel, de la vie des gens dans la guerre. Donc évidemment, côté ukrainien, on a le point de vue ukrainien, et côté russe, on a le point de vue russe. Ce ne sont pas les mêmes points de vue.
Alors, en lisant votre livre, Anne, la haine et le déni, paru aux éditions Flammarion, je me suis rendu compte de ça. C'est fou ce que sur un même sujet,
oui,
dans un même endroit du monde, à la même minute,
oui,
des hommes et des femmes peuvent avoir des positions diamétralement opposées, en étant chacun une sorte de légitimité. C'est peut-être ça que j'ai découvert en lisant votre livre.
Ah,
c'est incroyable.
Merci pour ce commentaire parce que il me touche beaucoup. Effectivement, vous avez raison. Pour moi, chacun a sa légitimité. C'est-à-dire que, une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est de saisir le sentiment et parfois le ressentiment des uns et des autres. La guerre provoque des passions, des haines, du ressentiment, de la violence, bien sûr. C'est inévitable.
Et c'est toujours une frustration antérieure. Hein. Vous l'expliquez très bien, ça,
oui,
ici.
Oui, surtout entre la Russie et l'Ukraine. Parce que je peux pas raconter les causes de cette guerre en une seconde. Et c'est pour ça que j'écris un livre et que je fais parler d'autres personnes que moi. Mais quand même, on ne se trompe pas en disant que l'indépendance de l'Ukraine à partir de 1991 a mis en colère la Russie. Et qu'il y a une espèce de jalousie qui se mue en ressentiment de la part des officiels russes, mais aussi d'une grande partie de la population russe, par rapport à la modernité de la société ukrainienne. C'est-à-dire en quelque sorte comme si les Ukrainiens avaient réussi une adaptation aux valeurs occidentales que n'a pas réussi la Russie, ou que n'a pas forcément souhaité la Russie, oui. Mais elle ne l'a pas forcément souhaité, mais tout en n'ayant pas compris au moment où elle ne le souhaitait pas que cela impliquait une espèce de mise au banc du cœur des pays occidentaux. Donc tout ça crée, évidemment, du ressentiment. Et cela joue dans cette guerre. Cela joue dans cette guerre. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ajoute à cela les atrocités militaires. Bien sûr, les atrocités militaires qui ont débuté. On a tous entendu parler de Boutcha. On a tous vu cette colonne de chars russes qui, au tout début de la guerre, était presque arrivée à Kiev et qui finalement a rebroussé chemin. On a tous entendu les actes de bravoure de la part de l'armée ukrainienne. Ce qui m'a beaucoup marqué, bon, je connais très bien les armées de ces pays. Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai été en Ukraine, c'est la solidarité horizontale entre armée ukrainienne et société ukrainienne.
Ça, vous l'expliquez très bien dans le livre.
Mais
aussi.
Ça, c'est très étonnant. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Parce que partout ailleurs, les armées sont... Évidemment, on fonctionne de façon verticale, c'est normal, mais avec assez peu d'ouverture sur la société
civile
dont elles émanent. Mmh. Voilà. Et particulièrement l'armée russe. Donc là, il y a vraiment une différence. Mais c'est sans doute dû à l'histoire de l'Ukraine. C'est dû au fait aussi que l'Ukraine est agressée et que donc la société ukrainienne tout entière essaye de faire quelque chose pour aider son armée ukrainienne.
Mais les Ukrainiens, ils défendent leur maison, leur terre, alors que les Russes, ils défendent rien, ils défendent... qu'est-ce qu'ils défendent des Russes?
Écoutez, les Ukrainiens défendent leur terre, bien évidemment, puisque l'armée russe les a envahis. Mais maintenant, on en est à 2 ans et demi depuis le début de la guerre. Donc là, on a depuis près de 2 mois, nous avons une incursion militaire ukrainienne en Russie. Et là, ça instaure quelque chose de nouveau pour les Russes. C'est-à-dire que le territoire russe, une infime partie, bien sûr, du territoire russe, puisqu'il est immense, se trouve sous occupation ukrainienne. Alors, c'est bien sûr un choc psychologique pour les Russes, même si la propagande d'État, les télévisions d'État minimisent, bien sûr, cette incursion. Mais il est clair que les Russes ont un territoire tellement grand que beaucoup de mes sources russes disent, et je comprends qu'ils puissent le dire, je sais comment ils raisonnent, ils disent, mais c'est si peu, voilà, oui. ça n'a aucun impact sur nous. Mais ça a quand même un impact psychologique parce que ça, c'est donc la poursuite d'un bras de fer. Et c'est la raison stratégique pour laquelle les Ukrainiens ont procédé à cette incursion. Mais moi, ce qui me choque le plus dans cette guerre, hormis toutes ces atrocités, c'est le fait que je ne vois pas comment elle va se terminer. Je ne le vois toujours pas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui où nous nous parlons, il n'y a aucune victoire militaire claire sur le terrain d'un côté ou de l'autre. Et en l'absence d'une victoire militaire claire, eh bien, les combats continuent.
Ouf, on va écouter un peu de musique.
Ah ben voilà, ça va nous faire du bien peut-être,
oui.
Justement.
Si on met, qu'est-ce qu'on écoute ?
Si on met Tina Turner. Parce que Tina Turner, c'est quand même l'énergie incarnée.
Absolument.
Voilà. Et je crois que... Enfin, moi, personnellement, ça me fait du bien d'écouter.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le grand reporter de guerre, Anne Niva, la célèbre journaliste française. Vous savez maintenant un peu mieux, vous la connaissez un peu mieux, vous connaissez sa passion pour le vrai journalisme, le journalisme de terrain. Et nous allons parler maintenant de ce livre, La haine et le déni, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Anne, lorsque j'ai lu ce livre... J'ai été, au départ, je me suis dit que vous étiez tellement froide de ne pas prendre parti. Et au fond, après, quand j'ai refermé la dernière page, je me suis dit que c'était ça le journalisme. Mmh. C'était justement de ne pas prendre parti. Prendre parti, c'est faire de la politique.
Et vous avez vu à quel point justement le livre est dans l'humain.
Oui.
Donc il n'y a pas de froideur du tout, non. C'est l'inverse.
Non. Mais au départ, on en a le sentiment, parce qu'au départ, on s'attend à une polémique, on s'attend à une prise de parti, justement. On s'attend à un enthousiasme pour l'un ou l'autre
camp.
Mais
une prise de parti, c'est dire aux gens quoi penser. Et moi, je ne prends pas mes lectrices et mes lecteurs pour des idiots. Je n'ai pas envie de leur dire quoi penser. Et à la télévision non plus. Nulle part, en fait. En revanche, j'estime que ma mission, ce que j'aime faire, c'est apporter des éléments pour que chacun se fasse sa propre opinion.
Mais honnêtement, si on avait des opinions avant de vous lire, de lire La haine et le déni, on en a beaucoup moins ensuite. Parce que justement...
Tout est plus nuancé.
Tout est plus nuancé. Mmh. Parce que, encore une fois, les gens à qui vous donnez la parole, ont une forme de légitimité. Mmh. On peut comprendre, il y a quand même effectivement cette explosion, implosion, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de l'Empire soviétique,
oui,
qui a fait...
Dislocation en 1991.
Qui a rendu, au fond, tout le monde très nostalgique d'une période qui, pour eux, était bénie, et qui était facile, et qui était simple. Et Poutine, au départ, a cru aux Occidentaux. Et puis, il a eu le sentiment, si je vous lis bien, que, en fait, au fur et à mesure qu'il donnait des gages, eh bien, on le traitait mal, on le traitait, avec condescendance. Ce sont les Américains qui ont fait ça, qui ont commis
oui,
cette erreur.
Oui, les donneurs de leçons américains, c'est pas moi qui le dis, c'est effectivement le Kremlin et beaucoup de Russes qui le pensent.
Résultat pratique aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut imaginer cette sorte de frustration et de... Comment dirais-je ? Et c'est maintenant de là à faire la guerre, c'est un autre débat quand même, hein, de là à envahir le voisin.
Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est la violence de cette décision, le fait que chaque jour des gens meurent.
Mais Poutine a cru que ça allait être très simple. Hein. Je crois qu'il a cru qu'en 3 jours, il allait débarquer Zelensky. Et puis
Moi, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais le fait est que quoi qu'il ait pu croire, il s'est trompé. Il s'est trompé puisque nous sommes plus de 2 ans et demi plus tard et cette guerre continue. Et cette guerre coûte extrêmement cher à la Russie. Elle coûte cher en argent, elle coûte cher en hommes.
Alors je crois qu'on s'est débrouillé quand même pour ne pas envoyer les moscovites ou les...
Pour le moment. Oui. Pour le moment, c'est ça. Là, effectivement, vous avez raison, la mobilisation générale qui a été décrétée par Vladimir Poutine en septembre 2022...
C'était plutôt sur les bords...
...a été relativement ciblée. C'est-à-dire les maires de Moscou et d'autres grandes villes ont tout fait pour que effectivement les jeunes de leur ville, les jeunes urbains, n'y aillent pas. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités de devenir mobilisables en Russie. Et notamment, il y a la possibilité de s'engager. Il y a les volontaires qui, depuis le début de la guerre, gagne de plus en plus d'argent, Viviane. Et ça, c'est c'est ce qu'a trouvé l'État russe pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes à l'intérieur de la société russe. C'est-à-dire, n'y vont que ceux qui ont envie d'y aller, finalement. Et ils sont très cher payés. Et s'ils meurent, leur famille reçoit énormément d'argent. Donc ça, c'est en train de devenir une espèce de norme. Et dans la Russie, où il est difficile de bien gagner sa vie, partir pour la guerre devient un moyen de gagner sa vie comme un autre. Et ça, c'est un changement notable dans la société russe. Alors, personne ne sait comment ça va se terminer. Il y a en ce moment même Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est à la tribune des Nations Unies à New York. Joe Biden, le président américain, va parler, le président français et bien d'autres. Mais Volodymyr Zelensky essaye maintenant d'avoir un discours de paix en disant qu'il a un plan pour la victoire. Comme vous le savez, un premier sommet pour la paix a été organisé ici même en Suisse, en septembre. Mais la partie russe n'était pas là, parce qu'elle n'avait pas été invitée. Ça a d'ailleurs été reproché à la partie ukrainienne. Il est question maintenant d'un second sommet pour la paix qui n'aurait pas lieu en Suisse, mais auquel seraient invités les Russes, qui pour le moment disent qu'ils n'iront pas. Donc c'est pas fini. Donc malheureusement, on est encore dans une espèce d'impasse malheureuse.
Alors, je ne peux que conseiller à nos auditeurs de lire votre livre, Anne, donc Anne Niva, La haine et le déni, avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'avec ce livre, vous nous faites vivre au plus près des combats, au plus près de la guerre.
On est happé.
Avec les combattants.
Avec les civils,
avec les militaires, sur le terrain même. Je n'ai jamais lu un livre qui raconte la guerre de cette façon-là. Merci beaucoup pour ça.
Merci à vous, Viviane. Merci infiniment de l'avoir souligné.
Oui. Et alors donc, La haine et le déni, Anne Niva, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Anne, d'être venue devant mon micro. C'est l'arroseur arrosé. Je suis très fière de vous avoir eu aujourd'hui.
C'est super.
Merci. Et puis, merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré.
Et merci aujourd'hui aux auditrices et aux auditeurs.
À bientôt.
De Radio Cité.
À bientôt.
Au revoir.
Radio Cité Genève.
Viviane DeVitt.
La bouteille à moitié pleine.